C'est aussi pour moi un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir ouvrir avec vous une des pages de cette parole pour la méditer. Un épisode très important dans l'histoire de l'Église, nous le trouvons dans le livre des Actes au chapitre 10. Nous allons lire les versets 1 à 23. Actes chapitre 10, les versets 1 à 23. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase et vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'aberçait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Et Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois. Et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent, « L'officier romain, Corneille, est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, elle a été divinement avertie par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. D'une certaine manière, le jour de la visite de Pierre chez Corneille, Dieu ouvrait toute grande une porte restée en partie fermée depuis des siècles. Après la première ouverture vers la Samarie, voilà la suite étonnante de l'ouverture vers les païens. Dieu révélait puissamment, brillamment, que la nouvelle alliance concernait tout autant les Juifs que les Samaritains ou les païens. des hommes de toute race, de toute nation, de tout peuple, de toute langue, entrer dans l'Église en mettant leur foi en Jésus le Sauveur. Juste avant de monter au ciel, le Seigneur Jésus avait commandé à ses disciples d'aller proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et déjà durant son ministère public, Jésus s'était soucié du bien de personnes non juives aussi, prenant soin de Samaritains et même de Romains, ces deux peuples généralement détestés par les Juifs. Cependant, la grande ouverture à la conversion des païens et à leur entrée dans le nouveau peuple, l'Église que Jésus bâtissait, s'est faite effectivement chez Corneille, un centenier romain. Ne nous y trompons pas, pour l'apôtre Pierre, la maison de Corneille avait tous les défauts. Tout pour rebuter un juif vivant à cette époque-là. Même un juif comme Pierre, qui avait été pourtant gagné à l'évangile de la grâce. C'était la maison d'un Romain, et qui plus est, d'un soldat gradé, d'un centenier, un chef de troupe, un des éléments clés de l'armée d'occupation, si violemment méprisé et haï par les Juifs obligés de subir cette mainmise sur leur pays. Sans oublier que les Juifs, en payant leurs impôts, payaient aussi, entre autres, les frais occasionnés par les troupes d'occupation dans leur pays. Déjà que payer des impôts n'est pas la chose la plus réjouissante qui soit, mais les payer pour ça, c'était rageant. Ainsi, la maison de Corneille était pour l'apôtre le type même d'un lieu à éviter à tout prix, à fuir, comme la peste. C'était interdit. Il avoue sobrement cette réalité chez Corneille quand il dit, un peu plus loin du passage que nous avons lu, « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. » Pierre aurait probablement accepté plus facile de partir pour des îles lointaines plutôt que d'aller chez cet officier romain, la crème des envahisseurs. Pour lui, cette maison était pire que les extrémités de la terre dont Jésus avait parlé. Et pourtant, de cette extrémité, Dieu voulait en faire un commencement, une tête de pont, un formidable point de départ pour la conquête du cœur d'innombrables païens par l'Évangile. Ainsi, quasiment de force et entièrement à l'initiative de Dieu, il faut le souligner, deux hommes vont être mis en présence l'un de l'autre, un juif et un païen, que Dieu va rapprocher pour en faire des frères en Christ. Concernant Corneille, les actes brossent de lui un portrait élogieux. C'était un Romain différent de beaucoup d'autres, à l'opposé par exemple du personnage de Messala dans l'histoire de Ben-Hur, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Messala, ce jeune et riche chef militaire romain, orgueilleux, cruel, méprisant les Juifs, capable du pire, même de cruauté, pour montrer sa supériorité. Corneille était à l'opposé de cela. C'était un Romain remarquable de qualité. Cela nous rappelle alors une vérité toute simple. Il ne faut jamais juger du caractère d'une personne sur sa seule nationalité, sur son origine. Comme parfois on dit, ah, c'est bien un Romain, ou bien c'est bien un Français, ou bien c'est bien un Suisse. Et quand on parle ainsi, le sous-entendu, quel qu'il soit, est rarement positif. Corneille avait faim et soif de vérité et de justice. Il faisait partie des craignants Dieu. pratiquant ce qu'il avait compris de la foi d'Israël. Il priait, pratiquait l'aumône, se souciait des pauvres. Il éprouvait de la compassion pour les Juifs, car il était très conscient des misères qu'ils enduraient. Ses actes prouvaient que ses sentiments étaient vrais, profonds, sincères. C'était un homme droit, humble, à l'écoute et au service des autres. C'était un juste. Ce qui tranchait probablement par rapport à l'attitude de pas mal de ses compatriotes dans les troupes d'occupation. Jésus avait dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et selon cette promesse, Dieu répondait aux prières de Corneille par un message riche de bonnes nouvelles. Dieu a entendu tes prières, vu tes actes. Il veut répondre maintenant à ton attente. Le centenier Corneille prend aussitôt les décisions qui s'imposent. C'est un homme d'action. Pour lui, les ordres venaient plus que jamais d'en haut. C'était vers 15 heures que l'ange lui était apparu, la 9e heure pour les Juifs à l'époque. Et tout de suite, il témoigne et s'organise. Il fait appel à 3 hommes de confiance, dont, détail intéressant, un des soldats pieux, attaché à sa personne. Ils écoutent son récit, prennent au sérieux son témoignage. Corneille ne leur dirait rien d'autre que la vérité. Ils sont prêts à partir aussitôt pour aller pour un aller-retour d'au moins 100 kilomètres de marche pour chercher ce Simon surnommé Pierre qui est à Jaffa, à 50 kilomètres de Césarée, au sud, sur la côte méditerranéenne. Ils ne vont pas jouer les touristes le long de la côte. Le lendemain, vers midi, ces 3 hommes arrivent à destination. Ils ont marché au moins 12 à 14 heures, prenant seulement quelques heures de repos pendant la nuit pour se nourrir et dormir un peu. Au moment où ils arrivent à Jaffa, Pierre est en train de monter sur le toit de la maison où il réside. Il s'isole pour prier. Je suppose qu'il s'agit d'un toit en terrasse comme cela se construisait à l'époque. À ce moment-là, Pierre était de loin pas prêt à recevoir ces 3 hommes et encore moins à les suivre chez leur maître. Mais Pierre cherchait la présence de Dieu. Au milieu d'une activité intense pour faire face aux multiples sollicitations de l'œuvre de Dieu en pleine expansion, il éprouvait le besoin de se retirer. Chercher la présence de Dieu, avec le désir de mettre ses pensées à l'unisson avec celles de son Seigneur. Pierre avait souvent vu Jésus se retirer pour prier et il suivait son exemple. Avait-il des fardeaux à déposer, de l'aide à demander, des paroles de reconnaissance et de louange à exprimer en voyant l'œuvre progresser, l'Église grandir partout malgré une vive opposition? Pierre n'avait pas tout compris. Le chapitre 10 des Actes en apporte la preuve. Mais il donnait fidèlement et quotidiennement au Seigneur l'occasion de lui montrer la voie à suivre, pour rectifier éventuellement ses convictions pas encore équilibrées ou pas suffisamment justes. Pierre savait que cette relation régulière avec eux était indispensable pour être en mesure de servir son Seigneur d'une manière juste et fidèle. C'est un bel exemple pour nous d'avoir cette sagesse au quotidien, de passer du temps avec Dieu, de fixer nos pensées sur sa parole, de la méditer, pour qu'elle nous parle, pour qu'elle devienne agissante dans nos cœurs, jusque dans notre pratique chrétienne, pour aller de progrès en progrès. Nous n'avons pas tous des missions aussi lourdes que celles de l'apôtre Pierre. Dans ces premières décennies de l'histoire de l'Église, décennies déterminantes. Mais pour réussir notre vie, pour avancer dans notre travail, pour trouver la force de rester fidèle, c'est aussi très important pour nous d'entretenir notre relation avec Dieu par la prière au quotidien. J'ai lu un poème anglais il y a très longtemps qui parle de la prière. Je l'ai mis dans une de mes Bibles. Je l'ai traduit en perdant certainement la poésie, mais j'espère que je n'ai pas perdu le sens. Et voici ce que disait ce poème. Un matin, je me levais d'un bon pied pour m'engager dans une nouvelle journée. J'avais tant de choses à faire que je n'avais pas de temps pour prier. Bientôt les problèmes m'assaillirent et mon travail me pesait de plus en plus. Je m'étonnais, pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas? Il me répondit, me l'as-tu seulement demandé? Je voulais produire des choses belles et bonnes, mais les résultats étaient ternes et décevants. Pourquoi Dieu ne me dit-il pas comment faire? Il me dit, as-tu seulement cherché où il fallait? Je voulais vraiment entrer dans sa présence. J'essayais sur sa porte toutes sortes de clés, mais elles restaient obstinément fermées. Dieu me dit, mon enfant, as-tu seulement frappé? Je me suis levé ce matin, j'ai fait silence avant d'entamer ma journée. J'avais tellement de choses à faire, il me fallait vraiment prendre le temps de prier. De bonnes questions. As-tu cherché, demandé, frappé à la bonne porte? As-tu pris conseil auprès de moi? Réalisons-nous, comme l'auteur de ce poème, notre besoin de donner à Dieu les occasions de nous aider, de nous montrer la voie à suivre. Rien ne remplace le temps passé consciemment avec le Seigneur, en lui demandant très simplement. Il nous guide et nous éclaire par son Saint-Esprit. En méditant sur ce chapitre 10 des Actes, prenons donc d'abord exemple sur la bonne habitude de l'apôtre de prier, de se mettre en position d'écoute devant son Seigneur. C'est aussi cela le commencement de la sagesse. Considérons maintenant la vision particulière que Pierre a reçu du Seigneur ce jour-là. Curieuse vision d'animaux en tout genre, oiseaux, reptiles, quadrupèdes, venus de partout pour combler l'appétit de l'apôtre. C'est midi. Il m'arrive aussi d'éprouver, vers cette même heure-là, une certaine angoisse au niveau de l'estomac. Pierre a éprouvé cette angoisse-là et quelqu'un prend note et va lui préparer quelque chose. Mais c'est un curieux commandement que Dieu adresse à l'apôtre. Hein. Lève-toi, Pierre. Tue. Et mange. Si le commandement nous surprend, la réponse de l'apôtre nous surprend aussi. Non, Seigneur. C'est catégorique. Et l'apôtre justifie ce refus d'obtempérer en disant « De ma vie, je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » En examinant l'ordre que le Seigneur donne à l'apôtre et sur lequel il insiste, on peut faire déjà une première remarque. Quand on se met à l'écoute du Seigneur, il peut très bien nous demander des choses qui nous surprennent, qui peuvent même nous paraître, dans un premier temps, en opposition directe avec nos goûts personnels ou même avec certaines de nos conceptions religieuses. Pierre était quelqu'un de bien, très bien. super engagé dans l'œuvre de Dieu, dévoué, courageux, infatigable. Depuis la Pentecôte, il avait donné les preuves d'un engagement sans faille pour accomplir la mission que le Seigneur lui avait confiée de paître son troupeau. Pierre ne cachait pas son drapeau. Très fermement, il tenait tête aux autorités qui voulaient le faire taire. Pierre était tout sauf un tiède. Il était prêt à souffrir pour Jésus. Mieux que cela, avec ses compagnons apôtres, il se disait joyeux d'être jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Pourtant, Pierre éprouvait une sorte de blocage face aux païens. Il n'était pas prêt à aller vers eux. Jésus avait bien dit, toutes les nations, allez. Mais c'était peut-être pour la génération suivante, quand il aurait lui-même tiré sa révérence. Ou bien ce serait pour une autre catégorie d'apôtres. Pierre faisait comme si Jésus ne lui avait pas déjà donné l'exemple en évangélisant des Juifs, mais aussi des Samaritains, ou même en admirant la foi d'un Romain, un autre centenier. Pierre gardait dans son cœur ses préjugés contre les Grecs et les Romains, tous païens, tous barbares, idolâtres, probablement indignes de la grâce. J'ai pensé au roman de Jane Austen, Orgueil et préjugés, en pensant aux problèmes rencontrés par l'apôtre ce jour-là. Ces deux mots résument assez bien la cause de ce blocage. Explique pourquoi Pierre ce jour-là dit « Non, Seigneur ». Pierre était fier de sa rigueur morale pour appliquer les traditions héritées de ses pères. Et il était plein de préjugés concernant les païens, incapables de les voir autrement que la façon dont le juif moyen à l'époque les regardait. Il y a là des attitudes, des causes de désobéissance qui peuvent très bien nous concerner, nous aussi. En tous les cas, Dieu voulait corriger chez Pierre ce type d'erreur, car la vision troublante qu'il fait sur cette terrasse est là pour ça. Une vision et un ordre qui, d'une certaine manière, signifiaient la fin des lois cérémonielles qu'observait le judaïsme, qui faisait la différence entre animaux purs et impurs pour les sacrifices dans le temple. Et depuis le sacrifice de Christ sur la croix, une fois pour toutes, cette distinction était dépassée, obsolète. C'était l'ombre des choses à venir. Un sacrifice aujourd'hui satisfaisait parfaitement la justice de Dieu. Et Pierre n'était pas prêt à considérer ces choses encore. Il y avait conflit entre certaines de ses conceptions religieuses inculquées dès l'enfance dans sa tête et ce commandement du Seigneur, absolument incompréhensible. Pierre tenait à garder sa conception des choses. Ça, c'était lui. C'était son histoire, son éducation, ses racines. Il en était fier. Ce n'était pas aujourd'hui qu'il allait changer ses règles alimentaires pour manger des choses que les lois anciennes interdisaient. Non, Seigneur, c'est à prendre ou à laisser. Mais le Seigneur répond fermement à ce refus. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Trois fois le même commandement, tue et mange, et trois fois la même réponse de l'apôtre, et trois fois la même insistance et la même explication de la part du Seigneur. Cette insistance n'était pas de trop, semble-t-il, pour contrer l'orgueil de l'apôtre et renverser certains de ses vigoureux préjugés. On sait ce que c'est que d'avoir des idées fixes, des blocages, des réflexes de refus ou de dégoût face à certains aliments, par exemple. J'ai vu que avec l'accroissement de la population sur la Terre, il est possible qu'un jour, on en vienne à proposer, y compris dans nos pays, des insectes à manger, de ces gros vers blancs-là. J'aurais vraiment de la peine à les avaler. Si le Seigneur me disait, mange. Mais Dieu fait comprendre à l'apôtre que tous les hommes, juifs ou païens, sont égaux dans le péché, mais aussi égaux devant la grâce. En ce qui concerne le salut, il n'y a plus ni juif ni grec, mais des êtres perdus à sauver par une même grâce extraordinaire et merveilleuse. Non, Seigneur. La réponse de l'apôtre à l'ordre divin montre que notre obéissance ou notre désobéissance se décide parfois en fonction de nos goûts. On a envie ou pas envie. On veut choisir. Cela nous plaît ou nous laisse indifférent, cela nous réjouit ou nous hérisse. C'est réalisable ou cela remet trop en cause des choses auxquelles on tient depuis toujours. Nous répondons parfois aux appels divins en fonction de ce qui ne dérange pas trop nos habitudes ou qui ne nous oblige pas à remettre en cause une opinion cristallisée de longue date. Mais les ordres divins ne sont pas facultatifs. Le Seigneur ne dit pas à l'apôtre, écoute, tu fais comme tu veux. Hein. Si tu ne veux pas, pas grave. J'ai dit toute nation, toute créature, mais tu es libre d'exclure qui tu veux. Libre ? Oh oui, c'est vrai que nous sommes libres de choisir, mais c'est le choix entre obéir ou désobéir, entre croire en ce que dit Dieu ou mettre en doute sa parole, avec les conséquences d'un tel choix. Il peut y avoir chez chacun de nous des résistances, il faut bien le confesser. La volonté de Dieu nous plaît, surtout quand elle va dans notre sens. Quand elle s'adapte bien à notre contexte. Quand elle ne perturbe pas trop nos projets. Quand elle ne dérange pas trop nos intimes convictions. On aime quand Dieu est d'accord avec nous. Mais reconnaissons que c'est le monde à l'envers qui apparaît dans ces deux mots « non, Seigneur ». Comment sérieusement les penser et les dire dans un même souffle, dire « non » au Seigneur du ciel et de la terre ? Pierre a eu de la peine à aller chez Corneille. Et considérons aussi qu'il n'était pas vraiment le seul à penser comme il pensait. Quand les anciens de l'église de Jérusalem ont appris ce qui s'était passé, que Pierre avait osé évangéliser des païens et qu'il était même allé chez eux pour le faire, lisez Actes 11, versets 1 à 3, et ils ont été très fâchés, les anciens de l'église de Jérusalem. Bien d'autres auraient répondu comme Pierre à l'ordre venu d'en haut, « Tue et mange ». Quand on dit « non, Seigneur », on est rarement seul. Des milliers d'autres le disent comme nous. Même des chrétiens engagés, convaincus. Mais cela ne devrait pas nous rassurer. Hein ? Car on peut être très nombreux à avoir tort. Devant Dieu, une majorité d'opinions humaines ne fait pas une vérité. Par contre, un seul avec Dieu, c'est une solide majorité. Heureusement, Dieu n'a pas abandonné l'apôtre à son refus. Il s'est fait très insistant. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu l'a guidé, l'apôtre, vers des travaux pratiques. Des gens venaient le chercher, suis-les, sans hésiter. Il fallait que Pierre réalise que Dieu ne donne pas d'ordre farfelu, qu'il ne fait pas dans l'arbitraire, qu'il a toujours d'excellentes raisons pour demander ce qu'il demande, que c'est pour notre bien et pour l'avancement de son œuvre. Pierre aurait vite l'occasion de comprendre qu'obéir à Dieu, cette fois encore, ce serait un sujet non pas désolant, mais un sujet de joie. Il va vivre une expérience marquante, riche, qui portera des fruits excellents dont il se régalera. Arrivé chez Corneille, qui a réuni sa parenté, ses amis intimes, Pierre déclare « Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. » Et un peu plus loin, il dit « Maintenant, je me rends compte vraiment que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. » Ayant enfin compris cela, Pierre peut expérimenter un des plus grands moments de son ministère, un des plus enthousiasmants. La chose qu'il avait tant rebutée était belle et bonne. Il vit à l'œuvre. Il vit l'antique promesse faite à Abraham dans Genèse 12 se réaliser quand sa postérité, c'est-à-dire Jésus, deviendrait source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, y compris des Romains. Des vies de païens transformées, remplies aussi du Saint-Esprit, des gens qu'il croyait si loin, si peu fréquentables, devenaient ses frères par la foi, rachetés par le sang précieux de Christ, comme lui. Après avoir raconté la vie de Jésus et son œuvre sur la croix, Pierre déclare « Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que quiconque croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. » Lui, lui, lui. Oui, Jésus était bien la réponse aux besoins de salut de toute l'humanité, de tous ceux qui, juifs ou païens, mettraient leur foi en lui. Ce récit est important pour nous. Face à la volonté déclarée de Dieu, nous n'avons pas toujours, je n'ai pas toujours, la bonne attitude, la bonne réaction. On peut avoir l'impression que cette volonté n'est pas juste pour nous. Cette attitude de défiance, de rejet, têtu face à ce que Dieu veut, nous prive de bénédictions certaines. On a parfois ce problème en tant que chrétien quand on refuse ou qu'on hésite face aux ordres clairs du Seigneur. J'ai rencontré cela face à la question du baptême, par exemple. À ceux qui se repentent de leurs péchés et qui acceptent la grâce du pardon, l'ordre est clairement donné de se faire baptiser. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre répercuta l'ordre que le Seigneur avait donné et qui nous est rapporté dans Matthieu 28. Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Et ceux qui reçurent sa parole, qui l'acceptèrent, furent baptisés, environ 3000. Plus tard, chez Corneille, prenant la mesure de l'authentique conversion de ceux qui étaient là, Pierre organise tout de suite une réunion de baptême. J'ai parfois constaté au cours de mon ministère que malgré la clarté de l'ordre du Seigneur concernant le baptême en témoignage de notre foi en Jésus, des amis vraiment chrétiens, convertis, hésitent parfois à obéir, repoussant la décision à plus tard. J'en connais quelques-uns pour qui le plus tard fait déjà des dizaines d'années. Mais sur d'autres ordres du Seigneur, il nous arrive aussi d'hésiter, voire de refuser de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Que de commandements clairs face auxquels on tergiverse, on trouve des raisons d'attendre, de reporter, de dire qu'on n'est pas vraiment concerné. Des exhortations simples à pardonner ceux qui nous ont offensés, à faire tout notre possible pour être en paix avec les autres, autant que cela dépende de nous, dit Paul. À pratiquer tous les uns et les autres que nous enseigne le Nouveau Testament, commandement à aimer, à accueillir, à supporter, à espérer, à être patient, à n'exclure personne de l'offre gratuite du salut en Jésus. Appel divin devant lesquels, comme Pierre, on fait parfois le tri. D'accord pour vivre cela avec telle ou telle personne, mais avec celui-là, pas question. Ce nom, Seigneur, peut ne pas s'entendre dans nos bouches, mais être une réalité. Que nos choix, nos décisions, nos hésitations révèlent concrètement. Comme Pierre, on peine à se laisser convaincre que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, toujours. Acte 10 nous oblige à réfléchir à cette attitude pour corriger le tir et remettre de l'ordre parfois dans nos convictions comme dans notre pratique de l'Évangile. Dernier détail relevé, ce n'était pas la première fois que l'apôtre Pierre disait « Non, Seigneur ». La première fois, c'est Matthieu 16 qui nous en parle. Quand Jésus parle de sa mort prochaine, Pierre l'arrête et lui dit « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus à l'apôtre ? « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » La deuxième fois nous est rapportée dans Jean 13. La veille de la crucifixion, Seigneur Jésus veut laver les pieds des apôtres. Il prend là l'attitude de l'esclave. Et Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et le Seigneur insiste. Et finalement, il comprend. Et Pierre lui dit, « Mais pas seulement les pieds, lave-moi complètement. » Et puis là, dans Acte 10, « Non, Seigneur, à cause de ses convictions religieuses, il est alors intéressant de noter que ces trois refus de l'apôtre partaient tous de bons sentiments. Pierre a par trois fois résisté à la volonté du Seigneur parce qu'il ne voulait pas entendre parler de sa mort, parce qu'il ne voulait pas le voir s'abaisser comme un esclave à ses pieds, ou parce qu'il voulait rester ferme dans son idéal de pureté. C'est beau, c'est beau. Cela montre bien que la désobéissance n'est pas toujours occasionnée par une volonté délibérée de mal agir et de s'opposer à Dieu. On peut désobéir avec dans notre tête d'apparentes bonnes raisons. Et en trois occasions, Pierre a dû comprendre qu'il se trompait dans son refus de la volonté de Dieu. Il fallait que Jésus meure pour expier nos péchés. Il fallait que Jésus laisse aux disciples un exemple d'humilité et d'esprit de service. Et il fallait que juifs et païens puissent par la foi recevoir la grâce du salut et entrer dans l'Église. En conclusion, y a-t-il des sujets sur lesquels nous savons très bien ce que Dieu veut de nous, mais face auxquels on hésite ? Reportons à plus tard l'obéissance, l'action, le geste, les paroles qu'il attend de nous. Souvenons-nous alors d'Acte 10, ce geste, ce texte qui nous donne tant de bonnes raisons d'être joyeux dans l'obéissance, pour dire de tout notre cœur ces deux mots qui vont très bien ensemble. Oui, Seigneur. Amen.